parlait de différents taux. Maintenant, l'idée, c'est que l'on va utiliser les deux lasers dans un régime bien particulier, qui est le régime où on va favoriser l'émission stimulée. Et puis après, il y aura une étape supplémentaire. Une fois qu'on favorise l'émission stimulée, ben c'est très bien, parce que ça veut dire que si vous commencez à rayonner dans le diode, chaque photon émis va stimuler l'émission de nouveaux photons. Mais si vous rappelez la façon dont un laser fonctionne, il faut au-delà de ça créer une cavité résonante qui va sélectionner certains. Ça, j'en parlerai dans un deuxième. Première chose, c'est de savoir comment favoriser l'émission stimulée dans un système à état solide. Alors, pour le faire, on va faire un calcul de durant un an net d'émission. Le rendement net d'émission, c'est ce que j'ai déjà défini avant la pause. Vous pouvez émettre des photons de façon spontanée, ou alors en présence de photons, ben, vous pouvez utiliser l'émission stimulée, mais vous reperdez par absorption, et le but évidemment, c'est que le gain total soit un gain net. Alors, l'équilibre ou la balance entre les deux processus d'émission stimulée d'absorption, c'est ce que j'ai appelé le RST. Et ce RST, si je le calcule, sous l'hypothèse que le coefficient de d'éléments de matrice est relativement constant, ben ça va appliquer des transitions à une énergie donnée entre deux états. Je dois faire attention effectivement puisque je vais avoir des transitions dans les deux sens. Donc je vais intégrer sur E'. Alors E', rappelez-vous, c'est tout ce qu'il y a dans la bande de conduction. E seconde, c'est ce que j'ai trouvé dans la bande de valence. Alors l'émission stimulée, si je reprends les résultats, de toute façon je vais pondérer. Les densités d'état dans la bande de conduction, dans la bande de valence. Ici, je ne vais pas intégrer sur E seconde, je vais directement intégrer le fait que E seconde est à un niveau E plus bas de E prime. Alors, j'ai deux processus. Un premier qui est l'émission stimulée, donc je pars du niveau O et je vais vers le niveau bas. Et je retranche à cela le processus d'absorption, je pars du niveau bas et je vais vers le niveau bas. Et donc, le nom de par le 16 n'est pas correct. Ou alors, E seconde. Et alors, les fonctions de Fermi-Dirac, je vous rappelle qu'en fait, elles sont légèrement distinctes Donc, ce sont des fonctions de Fermi-Dirac, mais avec des niveaux de Fermi selon que l'on parle des électrons ou des trous. Alors moi, ce qui m'intéressait, c'est de tout ramener en fait par rapport à ce terme-là. Ce terme-là concernait de l'émission spontanée, donc va en réalité concerner un terme qui va avoir l'allure suivante. Je l'avais calculé tout au début. Ça va concerner le simplement par le résultat du coefficient d'Einstein qui me dit que RSP est égal à Rsteam, le RSP en fait va correspondre au premier terme. Donc l'idéal pour comparer l'ensemble et essayer de simplifier toute l'expression, c'est d'essayer de transformer le deuxième terme sous la forme du premier terme. Transformer ce deuxième terme en premier terme et je vais avoir un coefficient. Et d'où vient le miracle? Ben, si vous avez une fonction de Dirac, le rapport entre la densité de trous sur la densité d'électrons sera en fait proportionnel à l'exponentielle de E moins F sur K. Donc ça veut dire que ma constante, c'est le rapport de FV sur 1 moins FV. Et alors 1 moins FC sur FC. Et donc FV sur 1 moins FV, ça va me donner l'exponentielle décroissante de E moins EFV sur KT. Et les E en question, ce sont des E secondes. Par l'exponentielle croissante de E' moins EFC sur KT. Okay. Et alors, si j'essaie de ranger, d'arranger les différents termes, E' moins E seconde va me donner un E. Et alors je vais retrancher à ce E, une quantité que je vais appeler delta F sur K. KT. Beta F, qu'est-ce que c'est? C'est la différence entre le niveau de Fermi côté électron et le niveau de Fermi côté ça, la simplification va venir relativement facilement. Le terme stimulé ben, sera toujours donné par un coefficient B. Vous intégrez toujours sur vos états de densité d'état de part et d'autre. Le premier terme et le deuxième terme vont avoir un facteur commun puisqu'on a cherché à réduire tout ça à ce type de facteur. Voilà les facteurs communs. Et le deuxième terme va se transformer en ce facteur commun multiplié par la constante C. Et la constante C, c'est l'exponentielle de E dans delta F sur KT. Alors, il se fait que cette exponentielle, en fait, ne dépend pas de l'intégrant, de la variable sur laquelle on intègre. Et donc, cette exponentielle peut sortir de l'intégrale. Et qu'est-ce qui vous reste au final de votre intégrale? Eh bien, en fait, il vous reste un taux de transition d'un état de conduction vers un état de valence, et ça, ça n'est rien d'autre que le taux d'émission spontané. Donc, votre... oui, pardon, ici, je ne peux pas mettre un approximativement égal. L'approximation concerne le facteur B. Non, cette expression-ci est strictement égale à cette expression. Alors maintenant, je veux simplifier les choses en regroupant l'ensemble de mes trois termes. Et donc le R de E va prendre un terme spontané qui vient là-bas. Et puis les termes d'émission stimulée et d'absorption qui sont proportionnées à la quantité d'électrons et qui sont liées à ceci. Si vous voulez que votre laser fonctionne, vous voulez évidemment privilégier l'émission stimulée nette. Donc vous voulez vous arranger pour que ce que vous envoyez par émission stimulée ne soit pas réabsorbé par le matériau. Et donc, ce que vous voulez absolument, c'est que ceci soit supérieur à zéro. Ça veut dire qu'après un moment, vous allez générer beaucoup de photons par émission stimulée. Donc, vous allez avoir un facteur N qui va grimper. Et donc, ce terme-ci va l'emporter sur le 1. Et là, vous avez gagné là. Alors, quelles sont les conditions pour que l'émission stimulée prenne le pas sur tout le reste? Ben, c'est que cette expression-ci soit positive, et la condition, c'est tout simplement que l'écart entre les niveaux de Fermi soit en fait supérieur aux énergies qui nous intéressent, et les énergies qui nous intéressent, c'est l'énergie du gap et au-dessus. Et donc, la condition sine qua non, c'est que l'écart entre les quasi-niveaux de Fermi soit supérieur à l'énergie du gap. C'est ça qu'on appelle l'inversion de population. Donc, ce qui est très important à comprendre dans cet argument, c'est en fait simple, c'est ce paramètre-là, le delta F, que vous... sur lequel vous agissez avec l'injection. Parce que l'injection, qu'est-ce que c'est? Vous appliquez une différence de potentiel sur votre jonction. Cette différence de potentiel va créer un décalage entre les 15 niveaux de Fermi. Et c'est ce décalage qu'on appelle delta F. Et si vous avez un décalage supérieur à la différence énergétique de votre gap, eh bien vous avez gagné. Vous avez beaucoup d'électrons dans la bande de conduction, peu de trous dans la bande de valence, et vous réalisez votre injection. Inversion. Je ne sais pas si vous avez ce transparent-ci. Est-ce qu'il a été passé peut-être? Enfin, de toute façon, on va le passer. Okay. Maintenant, une fois que vous avez vous favorisez l'émission stimulée, qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous avez les premières transitions vont créer des photons. Ces photons vont entraîner une émission stimulée. C'est un peu un processus d'avalanche. Chaque photon créé va créer d'autres photons. Si vous êtes en condition d'inversion de population, vous avez la garantie que vos photons, globalement, ne vont pas être réabsorbés par les matériaux. Mais au-delà de ça, vous n'avez aucune garantie que tout ça va survivre, parce qu'il faut aussi lutter contre d'autres pertes. Et il y a deux pertes fondamentales, les pertes à l'intérieur du matériau. Le matériau absorbe du rayonnement. Et une autre perte fondamentale aussi, c'est que votre laser, il doit émettre. Et donc, vous libérez une partie de votre rayonnement dans le monde extérieur. Il faut que votre dispositif soit capable de refournir la quantité de photons nécessaire pour assurer une certaine intensité. Alors, pour le calcul des pertes, on va prendre un petit modèle. Bon, il y a d'abord les pertes intrinsèques au matériau. Ça va dépendre des mécanismes. Ça va dépendre de la présence notamment d'impuretés, etc., de différents processus d'absorption. Un des grands facteurs qui pose des problèmes, c'est notamment pour les jonctions très fortement dopées, avec une inversion de population importante, c'est que vous commencez à peupler une bonne partie de votre bande, une partie appréciable de la bande de conduction, et peuvent intervenir alors ce qu'on appelle les processus OG, qui sont des processus de transition intra-bande. Et ces processus, pourquoi sont-ils des pertes? Parce qu'ils vont absorber des photons, ils vont faire transiter des électrons au sein d'une même bande. Et bien sûr, ces électrons peuvent subir des recombinaisons, etc. Mais le fait est qu'en général, un électron énergétique ou un trou énergétique dans une bande va se relaxer essentiellement sous forme thermique. Donc les pertes OG vont correspondre pour une énorme proportion à de la production de chaleur. Ce sont des pertes quasiment nettes. Si je prends l'ordre de grandeur du maintien, avec un coefficient d'absorption relativement important. Alors, je vous ai parlé du fait que au au-delà de ça, une fois que vous avez créé de l'émission stimulée qui n'est pas réabsorbée par votre matériau, bah, il faut essayer de faire un rayonnement cohérent et on va faire ça avec une cavité. Alors le modèle qu'on prend, bah, c'est pour simplifier les choses, mais vous imaginez que vous avez une cavité unidimensionnelle qui est fermée aux deux extrémités par des miroirs ou un matériau semi-transparent. Donc si vous avez du rayonnement qui arrive ici avec une intensité 1, bah, vous aurez une réflexion avec un coefficient R et une transmission avec un coefficient 1 moins R. Et forcément la transmission, ça c'est la partie qui vous intéresse, c'est le rayonnement émis par votre diode laser. Alors la question évidemment c'est de se dire mais comment est-ce que je peux estimer les pertes encouru par le fait que je libère une partie de mon rayonnement à l'extérieur. Bah ici, le modèle est très simple. Imaginez que vous avez deux extrémités dans lesquelles vous rayonnez, c'est pour un petit peu simplifier les choses, qu'elles sont séparées par une longueur L. Vous pouvez calculer le gain net de rayonnement dans votre cavité comme étant la variation du flux par unité d'espace sur le flux incident. Alors ce gain net, là, il y aura des gains et des pertes. La partie gain, ce sera tout simplement le taux d'émission stimulée. Pour chaque photon, la variation du nombre, la variation du flux ben, sera proportionnelle au taux d'émission stimulée. Et puis alors les pertes. Les pertes, il y a les pertes réelles qui sont les pertes par objet, et puis il y a les pertes que je vais calculer ici. Alors comment est-ce que je peux évaluer ça? Ben, je vais considérer un aller-retour. Donc, vous émettez un photon ici qui va renforcer votre rayonnement. Il va y avoir une réflexion ici, une réflexion là-bas et ça revient là-bas. Et la question alors c'est de savoir ce qu'on a gagné, ce qu'on a perdu. En prenant en compte uniquement la partie rayonnement émis et en ignorant les pertes intrinsèques, donc uniquement pour se concentrer sur le terme de perte dû au miroir semi-réfléchissant. Alors, le rayonnement va en fait, le flux de photons va être donné par le flux initial, dans lequel vous aurez un gain qui est représenté par G, qui est un gain relatif par unité de longueur, et comme vous faites un aller-retour, vous allez avoir un gain net égal à G fois 2L. Pris à l'exponentielle. Et alors, en plus de cela, vous aurez deux réflexions successives. Et donc, le terme de gain va être multiplié par R carré. Si vous êtes en émission stimulée, ceci est supérieur à l'unité. Et ça, forcément, c'est inférieur à l'unité. Alors, pour évaluer les pertes encourues par le fait que vous transmettez une partie à l'extérieur, vous pouvez en fait évaluer le gain qui serait nécessaire pour compenser exactement ces pertes-là. Donc si le exponentiel de G2L fois R carré est égal à 1, ça veut dire que votre facteur G doit être égal à 1 sur 2L fois de logarithme de 1 sur r carré, et ça c'est 1 sur l fois le logarithme de 1 sur r. 1 sur r c'est supérieur à 1, le logarithme est supérieur à 1, et divisé par l, ça va vous donner l'inverse d'une longueur, et donc effectivement ça va vous donner un gain. Ça veut donc dire que si vous voulez compenser exactement les pertes encourues par le fait que vous émettez vers le monde extérieur, vous devez garantir un gain qui est au minimum égal à cette grandeur-là, Autrement dit, ça veut dire que les pertes par rayonnement peuvent s'exprimer comme étant 1 sur L log 2 1 sur L. Puisque c'est là, c'est ce que vous devez exactement compenser. Si maintenant vous prenez en plus en considération les pertes au jet, ben vous additionnez les deux mécanismes et vous avez un coefficient d'absorption nette qui est donné par la somme des deux termes. Voilà la philosophie. Alors quand on met tout ça ensemble, quand on calcule des pertes qui sont constantes ensemble, on calcule le flux incident en fonction de de transition que l'on a, donc il faut faire un calcul sur les densités bêta, etc. Quand on calcule aussi, on met en considération le taux d'émission stimulée net, on va arriver à un gain un gain relatif du rayonnement par unité de longueur qui va avoir cette allure-ci typiquement. Alors, donc là, je vous épargne le calcul parce qu'il faut vraiment intégrer sur les densités d'état qui ont des formes qui grandissent comme des racines carrées, intégrer sur les transitions et prendre en considération les facteurs de Fermi-Dirac. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est en fait de comprendre la structure générale de cette courbe. Première chose, c'est que la structure va commencer évidemment à la plus petite énergie d'émission. Et la plus petite énergie d'émission, quand vous regardez les choses de façon détaillée, ce n'est pas l'énergie du gap, mais c'est une énergie inférieure à l'énergie du gap. Donc, je ne sais pas si vous voyez d'où vient cette idée, enfin d'où vient ce résultat. En fait, on part de systèmes qui ont des densités d'état qui varient de cette façon-ci, dans la bande de conduction et dans la bande de valence. Maintenant, il faut créer une inversion de population et il faut avoir une injection très importante. Donc en fait, il faut partir de systèmes qui ont un dopage extrêmement fort. Donc, vous allez rajouter des impuretés. Et ces impuretés, en règle générale, ce qu'elles vont faire, elles vont aller former des états satellites. Et aux densités auxquelles on arrive actuellement, on arrive à des densités de dopage de 10-21 et on monte même vers 10-22. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, les états, donc les densités d'états satellites, les densités d'états d'impuretés, si les densités deviennent comparables à la densité caractéristique qu'on a ici, vous allez littéralement déformer les bandes et vous allez avoir une fusion de ces états avec les bandes. Alors, fusion, entendons-nous, ce n'est pas simplement un comptage d'états, vous avez un mélange quantique des états. Avoir des histoires d'états qui se rejoignent et qui deviennent des états hybrides qui occupent la même densité, mais vous pouvez aussi avoir des structures d'évitement et des choses comme ça. Donc ça peut être relativement complexe la façon dont les états sont restructurés. Mais le fait est que si les densités d'état d'impureté avoisinent l'ordre de grandeur de ce que vous avez naturellement dans la densité d'état dans le bas de la bande de conduction, et bien en fait vous réduisez le gap et le E', G, c'est ceci. Est-ce que vous rappelez les densités caractéristiques d'état de conduction pour le silicium, qu'est-ce que c'est? L'ordre de grandeur. 10, 101 par centimètre cube. Et 10, 19. 14 de grandeur en dessous de la densité d'atomes que vous allez trouver par unité de volume, mais quand vous peuplez les états les plus bas de la bande de conduction, vous travaillez typiquement à du 10-19 par centimètre. Les dopages actuels dépassent cette concentration-là, et donc vous avez quasi systématiquement des modifications profondes de la structure de bande en dessous de... avec un rétrécissement de la bande de production. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est que j'ai établi le résultat qui est repris ici et qui me dit la chose suivante, c'est que le tout est modulé par cette fonction exponentielle et cette fonction s'annule quand E est égal à delta F. Et delta F, c'est le point que vous contrôlez avec votre injection, et E égale à delta F, vous le trouvez ici. Si vous passez à des énergies supérieures, ceci va être négatif, et vous avez une perte nette, et à des états d'énergie inférieures, bah, vous avez en fait réalisé l'inversion de population, et donc vous avez un gain net. Alors un gain net, ça veut dire que vous allez, par émission stimulée, rayonner dans votre matériau et votre matériau ne va pas réabsorber ce qui a été émis. Mais si il le réabsorbe non pas par des absorptions directes mais par d'autres mécanismes comme les pertes au jet, vous perdez de toute façon le rayonnement. Donc vous devez aller au-delà des pertes au jet pour atteindre la partie supérieure et entrer dans ce qu'on appelle le régime d'amplification. Vous émettez suffisamment de rayonnement, votre rayonnement n'est pas directement réabsorbé par des transitions optiques au sein du matériau. Il va être perdu en partie par des pertes de type OG qui vont se transformer en chaleur, mais vous avez un gain net par rapport à tout ça. Et donc là, vous entrez dans un système où vous pouvez commencer à avoir une amplification de votre rayonnement. Alors votre amplification, en fait... ça veut dire que vous avez un rayonnement qui est émis et pas mal d'émissions stimulées, et donc vous avez une amplification sur le trajet. Maintenant, si après un aller-retour, votre amplification est entièrement perdue par ce que vous émettez, ben, il ne va rien se passer, votre diode va émettre un tout petit peu, vous n'en tirez pas de bénéfice. Pour tirer le bénéfice de l'amplification de la réflexion sur les deux miroirs, vous devez combattre en plus les pertes totales, et là alors vous rentrez dans le système d'oscillation. Et donc ce que ça veut dire, c'est que vous entrez dans un système où vous perdez pas mal de rayonnement que vous émettez forcément, mais vous oscillez entre les deux, et donc vous sélectionnez des modes. Sont telles que la longueur d'onde dans le guide, dans la cavité, est commensurable avec la longueur sur laquelle vous interférez. Autrement dit, il faut faire un aller-retour pour interférer. Et je vais prendre un indice M. L'aller-retour est un nombre entier de fois la longueur d'onde dans le guide. Et la longueur d'onde dans le guide, c'est en fait la longueur d'onde dans le guide. Il y a l'indice de réfraction qui va intervenir. Je crois que c'est divisé par l'indice de réfraction, puisque la vitesse est divisée par l'indice de réfraction, et la fréquence est donnée par le rapport de vitesse sur longueur d'onde. Il faut de la division sur. Donc le NIDIC ici, c'est le racine de petit mineur, c'est l'indice de réfraction. Alors comment ça se passe en pratique? Ben voilà. Comment faites-vous varier le delta F? Parce que c'est ça qui va déjà jouer sur votre émission. Faites varier le delta F en changeant le niveau d'injection. Le niveau d'injection, c'est-à-dire la densité de courant qui va s'écouler dans la diode laser. Si vous travaillez à faible densité de courant, qu'est-ce qui va se passer? vous émettez un petit peu de stimulé, mais une bonne partie est réabsorbée par des transitions optiques. Le reste est absorbé par OG, et donc vous êtes éventuellement ici en inversion de population, mais ça ne va rien donner de particulier. Et vous travaillez dans toute cette bande-là, donc vous avez un spectre relativement large. Une fois que vous entrez et que vous combattez les pertes dans votre cavité, qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous voyez que le spectre se resserre. Pourquoi? Parce que quand vous passez de cette catégorie-là à cette catégorie-là, et puis ensuite, dans les conditions d'oscillation, vous resserrez le spectre d'émission. Donc vous le voyez très clairement ici. En fonction de la densité de courant, je n'ai pas expliqué ce que vous montrez, c'est le spectre émis en fonction de l'énergie sur une plage énergétique. Et ce que vous voyez, c'est dès que vous dépassez un certain courant seuil, vous avez un pic intense, très étroit, qui va correspondre aux conditions d'oscillation. Alors les conditions d'oscillation vont correspondre en réalité à des modes résonnants de cavité. Et quand vous regardez le pic et que vous l'élargissez, ce que vous obtenez, c'est les différents modes dans votre cavité. Et ce que vous voyez ici dans cet exemple-ci, c'est qu'en fait, il y a 8 modes, 8-9 modes d'oscillation dans votre cavité. Alors ça, c'est déjà aussi une différence, je ne sais pas, les lasers traditionnels, est-ce qu'ils sont... travaillent avec combien de modes en pratique, je ne sais pas, quelqu'un le sait. Donc j'ai l'impression, en fait, ici, les specs sont un peu plus riches qu'un laser.
Et le néon, par exemple, bon, ça dépend évidemment de la qualité du laser, de la raison pour laquelle on l'utilise, etc., de la caractéristique du laser.
Donc vous voyez, vous travaillez avec des modes, mais ici c'est un spectre encore relativement riche. Alors les modes de la cavité, j'en ai parlé, ça c'est mon facteur M, ça c'est l'indice de réflexion, et c'est bien une division. Et alors comment est-ce que ça se passe du point de vue de la distribution spatiale du rayonnement? Bien voilà en fait votre jonction. Et il y a une erreur dans le schéma. Dans le schéma de gauche, je ne sais pas si vous pouvez la détecter. Ouais. En fait, la jonction doit être polarisée en direct, et donc le courant, en principe, devrait aller de P vers M et pas inversé. Alors, ce que vous avez, donc, c'est un courant qui est injecté perpendiculairement. Vous avez la région active entre les deux en zone achevée et un rayonnement d'un côté ou des deux côtés, peu importe. Et alors, une petite caractéristique d'optique, vous avez en fait un rayonnement au travers d'une fente, qui est une forme rectangulaire. Et donc, l'ouverture conique est plus grande là où c'est le plus large, plus grande là où c'est le plus fin. Ce qui veut dire que vous allez avoir un rayonnement avec un cours d'ouverture elliptique en sens inverse. Une autre chose qui est assez intéressante, c'est que le rayonnement peut devenir suffisamment intense pour entrer dans un régime de comportement optique du matériau semi-conducteur qui est non linéaire. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, l'indice de réfraction dans la région active va augmenter avec l'intensité de rayonnement, et donc vous allez vous retrouver dans une situation où vous êtes en présence effective de deux diélectriques différents. La région active va avoir un indice de réfraction légèrement supérieur à ce qui est en périphérie, et ça c'est précisément la configuration qu'on cherche à avoir dans les guides diélectriques. Ça veut donc dire que le rayonnement émis de façon stimulée va être littéralement guidé dans la tranche de la région active et va être confiné dans cette région. Je ne crois pas que je vous ai donné les transparents, je ne vais pas faire les calculs, mais quelques mots sur le courant de seuil. Le courant de seuil, c'est donc la densité de courant que vous devez imposer à votre jonction pour avoir, pour dépasser toutes les pertes et commencer à avoir l'oscillation. Et en fait, le flux émis en fonction de la densité de courant, bah, typiquement, augmente très lentement, et puis dès que vous passez l'oscillation, ça grimpe en fait. D'un point de vue purement pratique, les constructeurs cherchent à avoir des courants de souhait qui sont les plus faibles possibles.
C'est là aussi.
Oui. Bon, ici, c'est plus pour votre information. Embêter avec ça. Et alors, juste peut-être aussi pour vous donner une idée, la question qui se posait vis-à-vis du temps de réponse, on a une jonction PN avec une injection directe, donc c'est pas très différent d'une diode électroluminescente. Et donc, vous pourriez vous dire, ben, en fait, le tout est conditionné par une densité de courant, par le temps que prennent les porteurs pour subir des recombinaisons de type radiatif. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'ici, vous avez aussi ce que les photons font. Et comme vous jouez avec différents mécanismes d'émission stimulée, d'absorption et tout ça, les photons ont leur propre dynamique. Et comme vous pouvez vous en douter, la dynamique des photons est beaucoup plus rapide que celle des électrons. Mais le fait est que, dynamiquement, vous retrouvez face à un système qui comporte plusieurs constantes de temps, et vous pouvez avoir des mécanismes d'interaction entre les deux dynamiques qui vous donnent des fréquences de coupure tout à fait différentes. Et donc, bon, de nouveau, simplement pour votre information générale, ça fera pas partie de la matière pour cette question-là. Mais si vous avez un temps caractéristique pour les électrons qui typiquement tournent autour des nanosecondes, vous avez un temps caractéristique pour les photons de l'ordre de la picoseconde, et la dynamique particulière dans ce cas-ci va vous donner des temps de réponse du système global qui vont être proportionnels en fait à la moyenne géométrique des deux temps. Ça explique la raison pour laquelle le temps de réponse global va être abaissé, et donc la fréquence de travail peut être augmentée, et là vous arrivez à l'ordre du gigahertz pour typiquement des diodes laser de construction traditionnelle. Pour clôturer ça sur les diodes laser, et ça je ne sais pas, les ingénieurs vous avez déjà rencontré ce genre de choses, dans des systèmes dynamiques vous avez plusieurs degrés de liberté, on va dire. Alors voici un exemple d'une réalisation de diode laser basée sur de l'arsénure de gallium. Vous avez la région P, la région N, la région active. Alors en plus ici on va jouer sur un confinement de la région active, non pas par un mécanisme de guidon, mais en jouant avec des hétérojonctions. Donc ça je vous ai expliqué, non. Je vais parler des hétérojonctions après la pause. Et voilà votre jonction donc, qui est constituée, ça c'est vraiment le cœur de la jonction. Vous avez des matériaux différents dont je parlerai après la pause. Et vous avez une espèce de transition douce vers le monde extérieur. Ça sert autant de protection électrique que de protection mécanique. Et alors, dans ce cas-ci, ben, vous avez un exemple où en fait on essaye d'avoir la densité de courant seuil, donc qui va entraîner le fonctionnement en oscillation la plus faible possible. Et une façon de faire, c'est de créer toute une série de pièges sur le côté de façon à augmenter la résistivité, ce qui veut dire que le courant doit s'écouler essentiellement dans une région plus étroite. Et le résultat net, c'est qu'on diminue la densité de courant global. Donc ça va vous donner une diode laser qui va réagir très rapidement, et donc pour de très faibles courants injectés, elle va commencer à osciller. La contrepartie, évidemment, c'est que quand vous injectez moins de courant, vous aurez une puissance moins importante. Mais tout dépend de nouveau de ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire une diode qui va écrire un DVD, vous cherchez à déposer une certaine quantité de chaleur sur une région de faible surface, donc là vous cherchez la puissance. Si par contre vous cherchez à injecter un signal électrique dans une fibre optique d'excellente qualité,
comme l'atténuation ne va pas être très grande, ce qui va compter, c'est la réponse fréquentielle, c'est la rapidité de réponse vis-à-vis de l'électronique qui est en amont. Et donc ce genre de choses-ci, c'est évidemment plutôt utilisé pour injecter un signal optique dans une fibre. Voilà pour le topo.